Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch, édition du samedi, comme toutes les autres éditions d'ailleurs. Je suis moi-même Louis Laramée, accompagné de mes deux co-animateurs, Jim Boulay.
Hello!
Et Milna Lopez-Nadeau.
Oui, bonjour!
Comment allez-vous, chers collègues? Et surtout, Jim, qu'as-tu fait cette semaine?
Écoute, qu'est-ce que j'ai fait?
Première question, comment tu vas?
Je vais bien. J'ai fait une coloscopie, tout est négatif.
Non, tu vois, ça, c'est pas...
Non? Ok.
Pourtant, il donnait des images, c'est un peu comme un film.
Ouais, en tout cas.
Ça passait sur un écran, c'était...
On pourrait dire que c'est du cinéma d'avant-garde. Bon.
Ça dégénère.
Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Honnêtement, pas tant, j'ai travaillé beaucoup. Mais, chose intéressante, toutefois, deux choses. Premièrement, j'ai appris... que nul autre que Tim Burton allait sortir le film Dumbo en 2019. Donc, ouais. Si tu veux, une refaçon, un remake.
Dumbo, c'est l'éléphant, là.
Oui, l'éléphant Dumbo. Ça sera produit par, je pense, Walt Disney Productions.
Parce que Walt Disney, à temps, produisent tout.
Oui, y compris Marvel, Star Wars et tout ce qui existe. Effectivement. D'ailleurs, ça sera un sujet intéressant à discuter un jour, les géants qui s'affrontent. Louis, cette semaine, j'ai été au cinéma. Et j'ai été voir, oui, effectivement, le film que je suis allé voir, mais je suis en prime à aller voir.
Excuse-moi, le film que tu es allé voir, c'est le film que tu es allé voir.
Oui, c'est-tu un pléonasme, ça?
Ça, c'est... je pense que ça vient avec une carte de membre du club de tautologie, ça.
Excellent. J'ai été voir Black Panther.
Oui.
Donc, ben oui, c'est ça, parce que tu vois, Black Panther remporte de plus en plus de box-office.
Oui.
Et franchement, j'admets que j'ai apprécié ce film-là. J'ai vu la différence avec les autres Marvel. J'ai aimé le contexte, vraiment, une vision un peu plus africaine disons, du super-héros, si on peut dire. Mais j'ai quand même trouvé que ça respectait la plupart des, disons, des patterns qu'on est habitué dans un Marvel ou qu'on est habitué dans un film américain en général. Donc, pas trop des paysans, je pense. Assez accessible. Mais ça m'a fait rire que le seul blanc gentil dans le film soit une espèce de gars de la CIA qui n'est pas tellement convaincant comme gars de la CIA, mais bon...
Là, je m'excuse, Mélina, on change l'ordre parce que c'est ma nouvelle à moi. On a appris deux choses cette semaine. Un, Black Panther 2, confirmé.
Ah.
Ben avec le succès qu'il y a déjà.
Voilà, ça va être pour la quatrième partie de l'univers Marvel. Fait, au plus tôt 2020, potentiellement jusqu'à 2024.
Ce qui n'est pas si loin.
Non, mais c'est ça. C'est l'univers Marvel est en plusieurs séries. On est rendu dans la troisième, la quatrième s'en vient... Après Infinity Wars qui s'en vient cet été. Également, pourquoi est-ce qu'on a eu cette nouvelle-là et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que Black Panther a atteint le milliard de dollars mondial.
Wow!
C'est quand même impressionnant.
Ce qui lui fait rejoindre au niveau des films de Marvel, les Avengers, Avengers l'âge d'Ultron, Iron Man 3, Captain America Civil War, dans le club des milliards de dollars des films de Marvel.
Et est-ce qu'on approche d'Avatar tranquillement?
Deuxième meilleur lancement mondial.
Ouh, quand même.
Ouais, donc juste derrière Avatar, mais c'est quand même... huitième meilleur lancement mondial. Ils n'ont pas réussi à atteindre Avatar, mais c'est le deuxième lancement en termes de film de super-héros derrière Avenger et qui a détrôné The Dark Knight.
Ah bon?
Également, si je n'ai pas remarqué, il y a le salut Wakanda Forever où est-ce que les gens se mettent deux bras devant
Oui, on a vu ça dans Star Trek aussi.
Mais là, ça a vraiment été repris par ça. Puis ça a été repris par plusieurs icônes du sport en ce moment comme représentation d'une espèce de salut de la fierté noire, mais également, tu sais, drôle.
Oh.
Fait qu'on a la joueuse de tennis Sasha Vickery qui l'a fait. On a dans le monde soccer Jess Lingard de Manchester United. On a dans la WWE Titus O'Neil. puis Apollo, quand ils sont rentrés dans le ring en double tag team, qui l'ont fait également. Fait que non, on voit une recrudescence de ce mouvement-là comme un sentiment, un signe intéressant.
Mais pour la lutte, c'est parfait parce que ça fait ressortir les biceps un peu.
Honnêtement, j'ai vu les deux doses performer le dit salut. Et c'était quand même... ils ont donné un petit twist. C'était cute. Ils ont fait le plus proche de ce que la sœur de Wakanda faisait, de T'Challa fait. Fait comme avec un peu de move après ça. C'était de toute beauté.
C'est intéressant ces symboles-là. Je pense aussi à dans Hunger Games là, qui lève les deux doigts dans les
airs.
Comme
le l'oiseau.
De résistance.
Voilà.
Ben, puis également dans le film que tu as vu, The Darkest Hour, là, quand le monsieur il fait les deux doigts en forme de V.
Oui, qui est devenu...
Ça, je pense que c'est Churchill.
Winston, le gars alias Winston Churchill.
Ouais, l'homme. Ok, je vais dire l'homme.
L'homme.
Mais non, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Non, on ne cite pas Churchill ici.
Donc, moi, cette semaine, j'ai commencé en fait une nouvelle série. Ça s'appelle This Is Us. Ça a commencé à... En fait, on est rendu à la deuxième saison en ce moment, qui vient de terminer, mais ça a commencé à être diffusé sur les ondes de Radio-Canada en français. Donc, le titre québécois, si on veut, ou le titre au Québec, c'est Notre Vie. Moi, je l'écoute présentement sur Netflix. Et c'est une série qui a été créée par Dan Fogelman. Et c'est avec Mandy Moore, une actrice quand même connue, là, si on se souvient, dans Une promenade inoubliable.
Ah, c'est elle, ça?
Oui.
C'est pas elle qui chantait « Mandy Moore, nanananana »
Non? Ou pas.
Ah, OK. Je dois me tromper.
Je suis quand même déçu, je dois admettre que, pour continuer dans les blagues, je suis quand même déçu que This Is Us s'est transformé en...
Aussi, c'est ça? Moi aussi.
Notre vie.
J'aurais aimé que comme ça se transforme en « Cela et nous ». Ça aurait fait plus...
Ça aurait été un peu étrange.
Google Translator.
Oui, mais en même temps...
Mais c'est une excellente série. Je peux pas encore vous dire pourquoi je l'aime autant, parce que j'ai pas mis le doigt dessus, étrangement. Mais c'est une série vraiment... Puis je suis pas la seule à dire ça, là, vraiment au niveau de l'audience. C'est vraiment fantastique qu'est-ce qui ressort de ça. En fait, ça suit une famille, si on veut, à travers plusieurs générations, des retours dans le passé, l'avant. Mais ça explore vraiment plusieurs thèmes qui sont d'actualité, mais d'une belle façon quand même, un beau message d'espoir derrière ça. Quand la vie te donne plusieurs citrons, fais une limonade.
Oui.
Et c'est pas pour rien que je vous parle de ça, parce que cette semaine, on a vu sortir la bande-annonce du nouveau film du même créateur, Dan Fogelman, et son film ça va s'appeler Life Itself, donc This Is Us, Life Itself.
Je me demande comment ça va être traduit, ça
La vie en elle-même.
Ça va être notre vie, je pense. Notre vie.
Ça serait quand même...
Ça pourrait aussi devenir la vie, la vie.
Oh! Ah. Ben oui, pourquoi pas.
Mais ce film-là a quand même un casting intéressant. On parle d'Antonio Banderas, Samuel L. Jackson, Maddie Patinkin, Olivia Wilde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Amazon Studios qui est derrière ce film-là.
Oui. Ah oui.
Fait que... dans les nouveaux grands qui s'affrontent dans les...
Ben oui, c'est vrai, hein? On va suivre. Probablement Amazon va éventuellement gonfler comme une balloune, peut-être être achetée ou achetée autre chose.
Je pense que ça va être inératable comme un fleuve.
Ouh, le mot du jour, Louis.
Le mot du jour, c'est fleuve.
Ah, je pensais que c'était inératable.
Comment? Inarrêtable?
Ah, inarrêtable!
Ben là, c'est quand même assez... Je pense pas que je change du vocabulaire de haut niveau cette fois-ci, là.
On attendait mieux de toi, Louis.
Moi, je suis un peu déçu, franchement.
J'ai pas de nouveaux mots de vocabulaire cette semaine. Je peut-être plus tard dans l'épisode. Voici Ciné Brunch. Fait que cette semaine, Mélina, t'as été voir un film de temps. Dans le temps, dans le... Une ride, un quelque chose, un...
La traduction francophone, c'est un raccourci dans le temps.
J'avais vraiment mieux une ride dans le temps.
Oui, mais moi aussi, mais bon, hein, c'est la pas vie. Nous qui... C'est ça, la non, vie, ça. Hein, les traductions, ça donne toutes sortes de choses. Non, c'est ça. Le titre original, c'est A Wrinkle in Time. C'est le tout dernier film de Disney. C'est un film d'aventure fantastique et faut savoir que c'est basé sur un roman... du même nom, donc qui s'appelle A Wrinkle in Time, qui a été publié en 1962 par Madeleine Langle. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Ava DuVernay. Et fait intéressant à savoir, c'est que c'est la première femme de couleur à réaliser un film avec un tel budget. Et on parle ici d'un budget de production de 100 millions de dollars. Donc, bel accomplissement pour Madame Duvernay. Et gros budget de production pour ce nouveau film de Disney. Et on a une brochette d'acteurs quand même intéressante. On parle ici de Oprah Winfrey, de son vrai nom.
La potentielle candidate aux présidentielles américaines de 2020.
Peut-être. Voilà, peut-être. Suivre. Mais semble-t-il qu'elle a...
C'était pas son idée, je pense.
Non, c'était Twitter qui voulait qu'elle fasse ça. Sacré Twitter. Mm. On a aussi dans le film Reese Witherspoon, avec sa cuillère.
Non.
Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Storm Reid, Zach Galifianakis. J'ai pas du tout massacré son nom.
Zach Galifianakis.
Merci.
Avec un plaisir. Je l'adore. C'est un comédien que je trouve ça pareil.
Et Monsieur Pine, de son prénom Chris Pine. Mm.
Et... Chris Pine Pine?
Le Chris Pine de Star Trek et autres. Là,
oui. Ah ouais, ok. Non, mais c'est parce qu'il dit de son prénom Chris Pine.
Crispy Pine, je pense.
Oui, ok, c'est beau.
Crispy Pine.
Tu parles avec le Reese Witherspoon.
Hey, ça dégénère cet épisode-là à une vitesse folle!
C'est la température. Donc, je vais vous lire le petit résumé parce que je trouve qu'il dit pas grand-chose, mais quand même, ça peut donner une petite idée. Ça va comme suit. Le film, qui est une aventure épique basée sur le classique intemporel de Madeleine Lang, transporte l'auditoire à travers les dimensions du temps et de l'espace, examinant la nature de la noirceur versus la lumière et... ultimement, le triomphe de l'amour. Donc, sur ces belles paroles, on va aller écouter la bande-annonce.
Il reviendra jamais, hein?
Il doit vraiment te manquer.
Évidemment, il manque plus que tout au monde.
Et si on partait à sa recherche? En route! Voici ma planète préférée de toute la galaxie. Qui êtes-vous?
Nous sommes à la recherche de combattants. Ton père a accompli un exploit extraordinaire, mais il est peut-être en danger.
Alors mon père est toujours en vie?
Nous le pensons. Et tu es la seule qui puisse le retrouver.
Vous rigolez?
Est-ce que j'ai l'air de rigoler?
Un peu, oui.
Eh ben non.
J'ai des émotions en ce moment.
Intéressante bande-annonce, quand même.
Oh, c'est pas le mot que tu disais vraiment, non?
Mais je pense, honnêtement, là, j'ai vu le film, puis je pense qu'en français, ça a l'air épouvantablement pire qu'en anglais.
Mais ouais, c'est ça que j'allais dire. Comme pour être entièrement honnête, j'ai aussi vu la bande-annonce version originale anglaise.
C'est moins pire.
C'est toujours pas dans une direction que je trouve intéressante, mais à quelque part, comment? Tu sais, c'est un film d'aventure science-fiction destiné aux jeunes, puis j'ai déjà prouvé que j'avais comme... Bon, mon enfant intérieur est plus très fort. Fait que, tu sais, c'est ça.
Ça, oui.
C'était réglé. Mais non, fait que j'ai vu la bande-annonce en anglais et j'ai pas plus trouvé ça pertinent. Mais je suis content de savoir que je suis peut-être seul à penser ça.
En tout cas, la bande-annonce en français est vraiment mauvaise, disons-le.
Oui, quand même. Mais bon, mais revenons au film, en fait. Oui. Parce que la petite fille qu'on entend parler, c'est Meg. Elle est accompagnée de son frère qui s'appelle Charles Wallace et qui vivent avec leur mère qui est une scientifique, leur père qui était aussi un scientifique, là, un physicien, mystérieusement disparu depuis quelques années. Et un jour, Meg voit débarquer trois êtres surnaturels. Donc, en français, Madame Quiproquo, Madame Qui et Madame Quidam. Donc, une traduction assez intéressante pour ces noms. Donc, vraiment, il y a une thématique aujourd'hui avec la traduction francophone des...
Mais Madame Qui, c'était Madame Who. Fait que oui. Ça marche jusque-là. Mais
ouais,
le reste moins.
Quiproquo,
ouais,
en
c'est
tout
ça.
Cas.
Bon.
Donc, ces trois êtres surnaturels vont débarquer et Meg va découvrir donc que... la disparition de son père a un lien avec ses recherches sur le Tesseract qui pouvait agir sur l'espace-temps et donc qui permettait de voyager à travers l'univers, dans l'univers. Et donc, on entend les trois femmes lui dire dans la bande-annonce qu'ils doivent sauver leur père, que leur père est encore en vie et qu'il est coincé à quelque part dans l'univers. Et donc, ils vont partir avec, dans le fond, Meg, son frère et un jeune garçon qui s'appelle Calvin O'Keefe, vont partir dans l'espace, dans l'univers, en fait, dans des planètes extraterrestres pour affronter les forces du mal et sauver leur père. Honnêtement, j'ai aimé ça. la majorité des scènes sont tournées devant un écran vert. Il y a beaucoup de CGI, qu'on appelle, là, de CGI.
Oui.
Puis...
c'est des images par ordinateur.
C'est ça. Donc, on a trois jeunes acteurs qui se retrouvent à devoir tourner devant un écran vert. Donc, il y a vraiment l'idée de gauger leur réaction... par rapport aux situations, c'est intéressant. C'est pas toujours exact. On n'est pas toujours dessus. Des fois, c'est un petit peu trop. Des fois, c'est un petit peu pas assez. Mais quand même, je reconnais vraiment la difficulté de faire ça. Puis je trouve qu'ils ont quand même bien réussi. Le petit Charles Wallace était vraiment... Je l'ai trouvé vraiment, vraiment doué.
Oui, il était fort.
Il était fort. Mais je veux dire, je pense que le problème avec ce film-là, c'est peut-être plus au niveau du scénario. Je pense que le film prend des détours, mais en même temps passe vite sur certaines affaires. Il y a des concepts qui auraient pu être plus explorés, selon moi. Mais l'immersion est là, la crédibilité est quand même là. J'ai bien compris le film. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment fascinée, c'est que je suis allée voir le film avec toi, Jim.
Absolument.
Puis, en sortant de là, tu m'as dit à quel point tu avais remarqué une connotation religieuse dans ce film-là que je n'ai jamais vue. Et c'est fascinant parce que pourtant, on n'est pas si différent que ça d'habitude dans nos façons de voir un film. Puis là, toi,
pour moi, je suis sorti fâché de ce film-là, extrêmement fâché.
Des crucifix partout.
Non, c'était plus subtil que ça, mais c'était à peine dissimulé. C'est un film de conversion à la religion chrétienne. C'est comme ni plus ni moins, à mon avis, ça se casse entre Ben-Hur et... c'est un film religieux.
Dieu est mort.
Totalement. Comme totalement camouflé derrière des concepts, selon moi, évidemment. Ça m'a surpris que t'aies pas ressenti ça. J'imagine que... Faut dire une chose. Pour avoir vu ce film-là, c'est probablement le plus beau film au niveau des paysages, ces choses-là, que j'ai vu depuis Avatar. Ce qui n'est pas peu dire. Franchement, extraordinaire. L'environnement extérieur est très beau, tout ça. Bon, personnellement, l'histoire, j'ai trouvé ça très mauvais, mais ça, c'est un choix personnel, mais ce que j'ai surtout détesté, c'était cette espèce de dualité du bien et du mal qui est présente partout. C'est blanc ou noir.
Voyons, Jim, l'univers est entièrement manichéen. Et donc, en plein moment, le mot de la semaine, manichéen.
On l'a trouvé.
Je crois que fleuve, c'est un peu sous.
Ben non, mais c'est assez limité, là. C'est juste un cours d'eau.
Mais non, c'est ça. Franchement, je trouve ça très mauvais. À ce niveau-là, c'est dommage. Beaucoup de. Il y aurait eu quoi d'extraordinaire à faire à l'extérieur avec ça? Extérieur, évidemment, on s'entend qu'il y a beaucoup d'écrans verts aussi là-dedans. Des personnages qui font un peu rêver, tu sais, j'essaie de mettre un peu dans le... Je veux pas voler ta critique, mais ça me faisait penser à certains moments à l'histoire sans fin. Donc, pas jeune.
Oui.
Quand on les voit sur l'espèce de plante volante, là, en tout cas.
Le genre de carpe, un peu.
Carpe, plante, ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça.
Ça pensait à Baldus, un peu.
Ouais, tu sais, à Triou. Bon, en tout cas, ça me faisait penser un peu à ça. Puis, finalement, c'est ça. Mais c'est un très beau film, mais beaucoup de références religieuses.
Que je n'ai jamais
vues,
donc...
C'est jusqu'à la dernière scène du film où la petite fille lève les yeux au ciel et dit « Merci ». Et là, on a un beau zoom dans la fenêtre où elle regarde et on a un ni plus ni moins un coucher de soleil dans les nuages qui est une référence chrétienne depuis toujours.
Fait que c'est Narnia 2 à ce niveau-là.
Mais c'est très proche de Narnia, c'est un très bon point. Mais je sais que dans son type d'écriture, elle a été aussi comparée à C.S. Lewis. Qui a écrit Narnia. Donc, elle était influencée probablement par la religion quand elle a écrit ça. C'est intéressant de voir à quel point on a une opinion différente de ce film-là. Moi, si j'avais...
En même temps, si on veut parler d'opinions différentes, on va juste parler de problèmes d'infiltration, puis c'est fait.
Oui.
Oui, mais...
Ça, c'est 2017, Louis. Ouais. En ville.
2018, maintenant, là. Mais c'est ça. Pour donner une note à ce film-là, moi, je donnerais un 7. Je pense que si vous avez des enfants, ça peut être intéressant à les voir. C'est très beau, comme Jim l'a dit, ça fait rêver un peu. Il y a quand même des concepts intéressants, donc voilà.
Considérer. Ben, merci beaucoup, Mélina. Merci aussi, Jim, pour cette mini-critique. Fait que cette semaine, j'ai été voir un film québécois, tout seul, comme un grand.
Wow.
Parce que le film que je voulais vraiment aller voir n'était pas disponible en anglais.
C'est vrai que c'est rare que tu y vas tout seul voir les films québécois. Souvent, tu nous demandes de faire des critiques communes.
Ben, c'est parce que je trouve ça intéressant de faire des critiques communes sur les films québécois parce que c'est souvent la seule occasion qu'on a d'aller les voir. T'sais, je pense pas que j'aurais été voir Trip à 3 si on n'avait pas fait une critique commune.
Effectivement.
T'sais, je pense pas que t'aurais été voir un problème d'infiltration si on n'avait pas fait une critique commune.
Définitivement pas.
Puis, je me serais senti mal d'aller voir Pas de raison, Charlotte a du fun si on n'avait pas fait une critique commune. Fait qu'en quelque part, oui, je vous demande souvent d'aller voir des films québécois parce que c'est ça, je me justifie des affaires. Mais là, on va révéler quelque chose. On avait quelqu'un qui l'avait vu plus tôt,
oui.
Puis qui nous avait révélé que c'était un film particulièrement violent.
Oui.
Puis Jim était supposé aller voir ce film-là. Quand il y a eu ce morceau d'information-là, il a
fait...
Je n'ai
pas voulu.
Ouais, non, ça ne me tente pas.
Parce que je suis un être pacifiste, donc voilà.
Parce que t'es un peu sensible, puis que les films malaisants, tu sors de là tout croche, puis ça te prend 2 jours de te remettre. Puis c'est correct.
J'ai pas eu de problème après Pierre Lapin.
Oui, non. Il aurait fallu qu'on s'en parle si t'avais eu des problèmes après Pierre Lapin. Fait que c'est un film, ça s'appelle Chien de garde. C'est un film qui est réalisé par Sophie Dupuis, qui est la première fois qu'elle réalisait un long métrage. Elle avait déjà réalisé Félix et Nataou, qui a été récompensé au Festival de films d'été de Québec de 2011. Sa mère vedette, Jean-Simon Leduc, que Mélina a déjà vu dans le Chum, dans Et on pire, on se mariera.
Oui.
Ah oui.
Baz, exactement. Oui, Théonore Pellerin, Maude Guérin également, qui est là. Marjo, qui fait quelques apparitions dans le film. C'est la première fois qu'elle était dans un long métrage.
Elle chante-tu?
Non. Non, elle est vraiment là, puis elle est vraiment crédible en plus, comme leader de gang, rival, vraiment. En tout cas, c'était ouais. Non, j'ai beaucoup aimé. Je savais pas que c'était Marjo.
Okay,
là, j'ai su après, puis j'ai comme,
nouvelle carrière pour Marjo, peut-être.
Mais c'est déjà quelques moments qu'elle nous a sorti son dernier CD, fait qui sait? Qui sait?
Peut-être.
On va rapidement aller à la bande-annonce. Après ça, je vais vous faire le synopsis, parce que c'est quand même. C'est ça, bande-annonce.
Qu'est-ce que c'est que
c'est
donc?
Ben oui, tu me
C'est à qui Verdun?
C'est à nous Verdun!
D'ailleurs, sur cette phrase-là, on entendait les deux personnages principaux, JP puis Vincent. JP, c'est l'espèce de bon gars qui est pogné entre son... Ok, je vais vous lire le synopsis, vous allez comprendre.
Ouais.
Vivant dans son appartement exigu avec sa copine, tu vois, ça aurait pu être l'autre mot de la semaine. Parce que vivant dans son petit appartement avec sa copine, sa mère et son frère Vincent, JP se sent oppressé. Par toutes les responsabilités qui pèsent sur lui, en tête présent pour sa mère, être un petit ami dévoué, travailler comme collecteur dans le quartier, rester actif dans le cartel de drogue de son oncle, JP doit avant tout s'occuper de son frère, un être impulsif, instable et agressif. Bien qu'il aime profondément son frère, JP ne sait pas combien de temps et combien d'ennuis il pourra encore endurer pour Vincent.
JP, okay. Il est joué par...
Jean-Simon Leduc.
OK. Ah, OK. Cool.
Oui. Puis ça commence sur une scène vraiment... le fun, puis vraiment, qui met vraiment dans le contexte de, justement, JP dans un party avec son frère Vincent. Vincent, tu sais, il est décrit comme instable, impulsif et agressif. Il a probablement des problèmes de santé mentale ou des problèmes de consommation importants, puisqu'on le voit à plusieurs reprises être complètement déconnecté de la réalité, de créer des problèmes vraiment importants pour sa famille, pour son frère, pour sa mère. Sa mère qui est une alcoolique en rémission, puis on l'entend dans une des scènes du film, faire comme « on sort un moment à soir parce que ça fait 6 mois qu'elle a pas bu », puis t'es comme « pourquoi? » Mais t'as pas compris comment est-ce que... Fait que tu sais, un paquet de scènes, il y a des scènes... Vincent comme le point central de ce film-là. Oui, le personnage principal, c'est JP, mais toutes les actions de JP... tourne autour de Vincent. Parce qu'ils habitent ensemble dans un petit appartement. Exigu ici, c'est peu dire. Ils habitent là avec sa blonde, sa mère puis son frère. Puis, il travaille pour son oncle qui est dealer de drogue. Puis, tout ce qu'il fait dans le fond, c'est pour protéger son frère. Il habite encore chez sa mère parce que sa mère n'est pas capable de gérer son frère tout seul. Il travaille pour son oncle parce que sinon, son oncle utilise son frère comme levier.
Okay, fait que c'est un bon gars, là.
Oui. Ben, dans un contexte familial ordinaire, ce serait déjà difficile, mais là tu rajoutes au fait que tu sais, c'est lui qui casse les jambes pour son oncle, fait que déjà il est dans un milieu violent, son frère l'accompagne, fait que son frère également est habitué à cette violence là, puis il y a toute cette relation là dans le fond que son frère est fin mais que la journée où il est violent, il arrêtera peut-être pas parce que il est déconnecté.
Il est déconnecté, ouais.
Fait que vraiment, c'est un film qui est malheureusement un tout petit peu inégal à certains niveaux, c'est-à-dire que il y a des moments un peu longs. Il y a des moments où ce que j'aurais peut-être chopé un peu plus. Il y a des moments où certains jeux d'acteurs auraient pu être améliorés.
Tu sens qu'il a été trop vite fini? C'est ça le feeling? C'est un peu de...
Je pense qu'il y a vraiment un... Quand j'ai lu après ça que Sophie... Dans le fond, moi, je vais toujours voir les films à blanc, ou j'essaie le plus possible de voir les films à blanc. Après ça, je lis. Quand j'ai lu que Sophie Dupuis, c'était la première fois qu'elle faisait un long métrage, je te dirais que c'est là que j'ai senti au niveau des longueurs, parce que très probablement qu'un court métrage ou même un moyen métrage comme à 52 minutes aurait pu être beaucoup plus tight. On aurait pu éviter certains de ces erreurs-là ou certains de ces sous-arcs-là qui sentaient. Tu sais, toute l'histoire que JP, dans le fond, il est apprenti en ce moment pour devenir électricien, mais le déménagement, en tout cas, il y a une couple de trucs comme ça qui
c'est juste
sont
dur à
là.
Commercialiser un moyen métrage, pour le moment, c'est pour ça qu'ils.
C'est exactement. Ben ça, en fait, c'était clairement une ambition de sortir du court métrage. Fait qu'elle a commencé par ça. Puis, je pense que c'est un manque d'expérience autant qu'un manque de talent, parce que j'ai vraiment vu des choses extraordinaires. Là. Comme la violence qui a été décrite n'est pas nécessairement visible, c'est-à-dire que c'est pas graphique. Il y a pas de moment où il y a eu un coup de tête, il y a peut-être eu un coup de poing, mais c'est tout.
Ah bon, je pensais que c'était justement graphique.
Non, les moments... Mais oui, non. Mais tu sors pas de là bien. Okay. Puis tu sors pas de là... Tu sors de là en ayant vécu cette violence-là. Il y a une scène, entre autres, extraordinaire où ils sont dans l'appart d'une femme, puis il faut qu'ils collectent, puis ses enfants sont là.
OK.
Puis t'arrives jusqu'au moment fatidique, puis là, il se passe quelque chose, mais... T'arrives suffisamment proche, t'arrives dans un endroit suffisamment, dans un headspace vraiment weird, puis t'as l'impression que ça s'est passé, même si tu le sais que ça s'est pas passé. Puis c'est vraiment les moments où ce film-là shine, ça shine fort en sacrifice. Les moments où ça devient un peu dull, c'est tristement vraiment longtemps dull.
OK.
Mais.
Le chien de garde, hein, c'est ça le nom?
Chien de garde, ouais. Oui, parce que c'est toute l'idée que JP est un chien de garde contre tous les problèmes de sa famille. Je l'ai écouté, je suis sorti de là, je me sentais sale. Je me sentais... Oh oui, tu sais, tu sors de cet univers-là un peu dans Verdun, tu sors un peu de leur appart qui est vraiment, pas nécessairement sale, mais qui est suranné, qui est, tu sais, qu'on
ça,
a vu d'autres.
Ça, ça a été le mot du jour, ça.
Après, manichéen?
Execo.
Ouais, quand même. Bref, donc, c'est ça, un appartement qui, tu sais, qui file vieillot, qui a l'air confortable, mais parce que trop usé, parce que trop habitué à cet ordinaire un peu de scrap-là. Les fleurs étaient juste trop envahissantes partout dans les thèmes de l'appartement. Mais bref, un extraordinaire film. Honnêtement, je l'ai regardé, je me sentais sale, je me sentais pas bien, mais en même temps, j'étais vraiment content de l'avoir vu. Un 8.5 et en même temps, une mention à surveiller Sophie Dupuis pour ses productions futures.
Intéressant. Probablement qu'elle va avoir été coachée pour faire peut-être des films plus balancés.
Mais... Sans nécessairement être coachée, juste d'enfant. Tu sais, son deuxième, probablement son troisième vont être encore meilleurs. Parce que déjà, aussi point d'honneur, l'utilisation d'une bande sonore presque entièrement composée de hip-hop québécois. Et que c'était pas ça qui me faisait sentir sale dans le film.
OK. Ça montre à quel point le film en lui-même peut rendre sale.
Oui, non, c'était quand même assez rock'n'roll. Là. La violence qui t'avait été décrite, pas un mensonge.
Et pour conclure ton bloc, à qui Verdun?
À nous, Verdun.
Oh yeah.
Hashtag Verdun Love. De retour à Cinébrunch, où on va avoir un top 3 de nos meilleurs films de Tim Burton, ainsi qu'un French Marie Gifle sur plusieurs performances d'une actrice célèbre utilisée par Tim Burton. Mais avant tout, Jim nous parle de son film Faute d'amour, a.k.a. Les fautes de français, a.k.a. Je sais pas, j'avais essayé d'autres...
Non, ça n'a pas de rapport avec les fautes de français. Bien que c'était un film sous-titré, en fait, le film Faute d'amour ou Loveless en version originale, c'est une production russe, donc c'est pourquoi le sous-titre, mais aussi une production franco-belge et allemande. Donc, un film en russe sous-titré en français, pour la troisième fois, je pense que tout le monde a compris maintenant. Et,
je suis pas sûre, il était-tu en russe sous-titré en français?
Exactement, okay. Mais le sous-titrage, tant qu'en parler, était vraiment bien fait, parce que le sous-titrage n'était pas... conventionnellement, comme on a l'habitude de le voir, des pleines lignes en bas, mais ils se déplaçaient selon où étaient les personnages pour éviter d'avoir l'action brisée par le sous-titre. Mm-hmm. Donc, c'était très, 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 très bien fait. Donc, c'est co-écrit et réalisé par Andrei Svinginsev, celui qui a fait Léviathan. Les acteurs sont tous des découvertes, sauf Alexei Rosin, Alexei Rosin, qu'on a justement vu dans Léviathan. Le film Faute d'amour a déjà reçu le prix du jury du Festival de Cannes en 2017. Ça ne m'étonne pas une seule seconde, parce que tous les films de ce réalisateur, Andrei Svinginsev, ont reçu au moins un prix. Faute d'amour a 94% sur Rotten Tomatoes. Wow. Voici la bande-annonce.
Даля.
Школу только что звонили. Его там не было ни вчера, ни сегодня.
Мне кажется, ты преувеличиваешь.
Я сейчас звоню в полицию.
Алёша Слепцов, 12 лет. Рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров.
J'ai tout compris.
La trame sonore est intéressante.
Ça sonne vraiment comme, ouais, vraiment bien.
Ouais. Faute d'amour, donc le film porte très bien son nom. C'est l'histoire d'un enfant mal aimé, Alyocha, dont on entend quelqu'un crier le nom. Un jeune enfant de 12 ans, un jeune garçon de 12 ans, il n'a rien fait pour mériter ça, à part exister et avoir deux parents totalement pathétiques.
Excuse-moi, j'aime juste une seconde. Oui. C'est bien un film russe sous-titré en français.
Oui, effectivement. Mais merci d'en parler, justement. C'est pas mal de le rappeler. Donc, voilà. Alors, ses parents sont totalement pathétiques. Ils sont en instance de divorce. Ils cherchent à vendre leur condo. Le père, Boris, stressé par le risque de perdre son travail à cause du divorce, fréquente une autre femme, enceinte et dépendante affective, tandis que la mère, Genia, fricote avec un homme riche et âgé. Ils sont tous deux tellement obsédés par eux-mêmes qu'il n'y a plus de place pour le petit Alyocha, qui n'est qu'un poids pour ses parents névrosés. Une nuit, Boris et Genia se disputent à la résidence familiale et leur fils Alyocha découvre fortuitement que ses parents ne l'aiment pas. Il fugue. Voilà le synopsis résumé du placement de cette histoire. Je vous cacherai pas que c'est un film assez sombre, dans tous les sens du terme. C'est sombre aussi visuellement. C'est pas une histoire cute, pas une seconde. La particularité du film, c'est que pour un film de fugue, cette fois-là, on ne suit pas le fugueur, mais bien les parents qui, disons, le recherchent, façon de parler. Ça crée une tension assez phénoménale qui va perdurer tout au long du film parce qu'on ne sait pas ce qui est advenu du jeune garçon. Donc... Le peu de choses qu'on connaît du petit Alyocha, on va le voir au tout début du film et pas de sa bouche parce qu'on ne l'entend à peu près pas parler, dans des plans qui vont être extrêmement contemplatifs, qui vont accentuer la tension par la suite parce qu'on va les revoir d'un angle différent et d'une autre façon. Le réalisateur a réussi parfaitement à nous faire détester les parents, pas tant par leurs actions que par leurs inactions, parce que c'est vraiment ça, là. Très peu de violence physique dans le film, à peine même. On apprend un peu la lourdeur bureaucratique du système russe, qui est quand même intéressant pour des gens qui s'intéressent un peu à la culture russe, mais aussi le poids des organismes communautaires qui ont réellement des pouvoirs, donc un organisme qui aide à rechercher les garçons disparus, les enfants disparus, vont avoir le droit d'avoir les codes pour rentrer dans les bâtiments, accès aux caméras de surveillance. Donc, comme on est... La police n'arrive pas à rien faire, mais on aide les organismes, les bénévoles à le faire. Fait que c'est quand même intéressant, au niveau culturel. Mais si on revient dans le film, l'histoire totalement bien ficelé, mais en plus, la photographie est totalement intéressante. Le choix des plans est sublime, parfait à mon goût. Donc, la musique, on en a parlé quand on a vu qu'on a entendu la bande-annonce. Donc, musique minimaliste et répétitive. Ce qu'on a entendu là, c'est vraiment la musique qu'on entend dans le film. C'est pas comme dans les films de Xavier Dolan, une musique qui n'a rien à voir avec les films. Musique minimaliste, répétitive, percussive, un peu comme du Steve Reich. Ça colle parfaitement avec le film et c'est très bien utilisé pour faire monter encore plus la tension. Le film dure un petit peu plus de 2 heures, mais franchement, on n'a pas le temps de détourner le regard parce que la caméra nous captive et nous stresse sans toutefois nous écœurer, comme on le fait souvent avec des gros drames nominés à Cannes. Je donne 9 sur 10 à ce film, soit ma plus haute note de l'année 2018 jusqu'à maintenant. Si vous aimez le cinéma, passez par-dessus la lourdeur du drame et allez le voir. C'est un film qui mérite définitivement d'être vu. C'est franchement un petit bijou du cinéma international. Ça vaut la peine, franchement, beaucoup.
Je suis vraiment triste de ne pas connaître plus de Russes maintenant. J'aurais dit quelque chose comme santé ou comme. Mais tout ce que je connais, c'est salut. Genre au revoir. Fait que ça sonne pas Das Vidania, Jim. Das Vidania.
Das Vidania.
C'est tout ce que j'aurais à dire à ce sujet-là. Fait que merci beaucoup pour cette critique extraordinaire.
Un plaisir.
C'est le moment du top 3.
Fait que comme l'annonçait la voix du monsieur à l'instant, c'est le moment du top 3. Ouais. Avec l'annonce que Jim nous a fait en introduction de la sortie de Dumbo en 2019 par Tim Burton.
Dumbo. Ça me fait vraiment rire qu'il fasse ce film-là.
Mais bon, ce film-là particulièrement, Tim Burton qui a pourtant une imagerie plutôt...
Ben, Alice...
Ils les refont, hein? Ils les refont, les Disney, La Belle et la Bête, Alice...
Mais c'est juste que Dumbo, c'est
Alice,
vraiment...
c'était pas écoutable.
Mais vous souvenez-vous que Dumbo est un des films psychédéliques les plus intenses qui a eu lieu dans le...
J'aime pas qu'on se parle du sous-marin jaune des Beatles, éventuellement.
Oui, mais ça, c'est différent. Ça se voulait comme ça. Mais là, c'est différent. C'est un film
mais
pour
écoute,
enfants.
Mais écoute, les Aristochats, moi, j'aimerais bien, en fait, dire...
Oui.
La scène de la fin des Aristochats...
Comment
là...
veux-tu faire ça en live-action Aristochats?
Mais comme Pierre Lapin.
Ça pourrait marcher.
Non, maintenant qu'on
ça
en parle.
Marcher. Tant qu'à ça, voir les 101 Dalmatiens et toutes les autres. Mais pour revenir à Dumbo.
Non, les 101 Dalmatiens, c'est dangereux, ce film-là.
Mais il a été refait, en fait. C'était vraiment pas. C'était pas écoutable, la version en vrai.
Non. Non, puis de toute façon, c'est dangereux parce que les Dalmatiens, c'est des chiens de.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Enfin. Mais attention, le monde va vouloir avoir des éléphants avec Dumbo. Attention. As-tu pensé à la quantité de fientes que.
Moi, j'aimerais ça qu'on refasse en dessin animé, comme la version inverse. Babe, le petit cochon des
villes. Oh, mais là, tout le monde va vouloir avoir des cochons.
C'est parfait. Les cochons domestiques sont super cool à avoir comme animal de maison. Les cochons miniatures, c'est vraiment... Tu sais, c'est mieux qu'un chien. C'est hypoallergène.
Ça mange le compost.
Puis c'est cute.
Bon.
Top 3 des films de Tim Burton. Jim, commence.
Écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire mes choix. Pour mon numéro 3, j'ai hésité longuement entre Edward aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, hein, n'est-ce pas? Et Beetlejuice. Alors, je vois déjà les regards gênants des gens autour de moi. Pour des raisons historiques, j'ai choisi Beetlejuice. Historique parce que quand j'étais jeune, oui, l'histoire, c'est moi maintenant. Quand j'étais jeune, j'ai vu les deux films vraiment
Louis XIV, sort de sa case, s'il vous plaît.
Non, c'est ça. J'avais peut-être 6-7 ans quand j'ai vu ces deux films-là. Donc, il faut comprendre qu'à cet âge-là, Edward m'a vraiment traumatisé. Parce que même si c'est un gentil et que je l'engagerais n'importe quand pour tailler ma cèdre, il me faisait vraiment peur avec ses couteaux. Et c'est ça, ça n'avait pas juste pas d'allure. Sinon, Beetlejuice, un petit peu, un peu plus léger. Et,
léger?
Comme film, oui.
Je suis calme, ça. Non? Ça se rappelle du même film?
Absolument.
C'est une horreur plutôt existentielle de comme...
Ah oui, mais pour un enfant, c'est juste drôle, là.
Ouais.
Pour un enfant, tu vois pas tout ça. Tandis que Edward, c'est l'inverse. Tu vois pas tout ça, mais il y a des couteaux dans les mains. T'sais.
Ouais, vrai.
C'est le même, je le vois. Beetlejuice, donc, pour moi, c'est ça. Un film qui m'a marqué. J'ai jamais vraiment compris l'histoire parce que je n'ai pas osé le réécouter depuis peut-être une vingtaine d'années. Mais dans tous les cas, film qui m'a marqué. Et je me souviens, je fredonnais même la musique quand je jouais tout seul dehors avec mon ami imaginaire, Martin Gauthier.
Ah, donc, le fameux Martin, on le salue.
Absolument. Salut, Martin. Donc, c'est ça. En deuxième position de mon top 3 des meilleurs films de Tim Burton, Batman de 1989. C'est ça.
Vraiment?
Oui, film avec encore Michael Keaton, parce que Michael Keaton était dans Beetlejuice, qui pourtant n'est pas un acteur que j'apprécie tant que ça, peut-être peut-être dans Birdman, par contre. Et avec l'incroyable performance de Jack Nicholson dans le rôle du Joker, ex aequo, à mon avis, avec Heath Ledger, et non pas Keith, Louis. Je sais que parfois, tu fais le...
Tu te trompes, oui,
mais,
c'est ça.
Mais bon, enfin, peu importe. Alors, film qui a chamboulé mon enfance à cause de ce film de... C'est-à-dire Batman 1989. La série télévisée d'Adam West a perdu toute sa profondeur et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, donc la même chose qu'avant. Heureusement que j'ai découvert Superman au milieu des années 90, sinon je jouerais encore avec ma Batmobile qui lance des torpilles jaunes. Ah, n'est-ce pas? Et finalement, pour mon top 1, Big Fish, l'incroyable aventure d'Edward Bloom qui raconte à son fils les incroyables aventures fantastiques qu'il a vécues plus jeune. On plonge dans un univers totalement surréaliste et son fils, maintenant adulte et sceptique, découvre que ce qui n'existe pas dans le monde réel existe bel et bien dans l'imagination. Et c'est avec l'excellent Ewan McGregor, qu'on a aussi vu dans The Island, Ange et Démon, mais surtout connu pour Obi-Wan dans la prélogie de Star Wars, bien que sa performance dans la prélogie de Star Wars était un petit peu moins intéressante que dans Big Fish. Alors voilà, c'était mon top 3 des meilleurs films de Tim Burton.
Excellent.
Wouhou.
Mélina, toi, qu'est-ce que t'avais comme top 3 de nos films?
Ben moi, écoutez, en fait, j'ai vu que deux films de Tim Burton, donc j'ai décidé de les mettre dans l'ordre.
C'est un top 2!
Gros coup de cœur pour Big Fish, je vous re-raconterai pas l'histoire. Ça m'a beaucoup touchée personnellement, ça me rappelait un peu mon père.
Oui, moi aussi ça m'a rappelé mon père.
Mais ça me rappelle aussi ton père, donc voilà. Je redirai pas le résumé parce que tu l'as bien raconté, mais vraiment, si vous l'avez pas vu, vraiment un film à voir, je pense que c'est intéressant, comme il s'en fait peu. Et donc, en deuxième position de mon top 2...
Et ça, c'était ton premier aussi.
Oui, c'était mon premier, mon premier...
Ton meilleur.
Mon préf. Et
BFF,
c'est ça?
Best film forever.
Jim, on va te demander de quitter le studio, s'il te plaît, d'aller dans le trafic, penser à ce que tu viens de dire. Mélina, ton deuxième film.
Plus de Jim, bravo Louis.
Je suis vraiment content de cette situation-là. On n'aurait plus de jokes plates autour de la table.
Encore là.
Ah non.
Et donc en deuxième position, le deuxième film que j'ai vu de ce cher Tim Burton, Alice au pays des merveilles. Donc voilà. J'ai écouté à maintes reprises les Walt Disney, les bonhommes là. Donc Alice, c'était un de mes préfs.
Ok, les dessins animés d'Alice. Au pied des merveilles.
Oui, ouais. Ça, Roxy Rookie, les Aristochats. Donc, pour moi, ça sera toujours... rien n'égalera jamais ça. Parce que juste à cause de la charge émotionnelle de mon enfance associée au visionnement de ces films-là.
Excellent. C'est bien dit. Ça me semble intéressant. Là, je vais commencer par une confession. J'aime pas vraiment Tim Burton en vie. Je trouve que ce qu'il fait est souvent similaire, souvent... Fait qu'à place de faire un top 3 de ses meilleurs films, j'ai fait un top 3 qui ont été de ses films qui ont été les plus marquants pour moi.
Bon, ben oui.
C'est intéressant.
Ça marche
pas. C'est quand même, ouais, c'est ça. Fait que mon premier, c'est Beetlejuice. Je continue dans la même veine.
Intéressant.
Parce que Beetlejuice, pour moi, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai aimé. Oui, tu vas me dire, c'est de l'horreur comédie. Oui, c'est une extraordinaire performance d'un paquet de monde, mais c'est vraiment la première fois que je considérais un film, justement, où on sortait des limites traditionnelles, où est-ce qu'on utilisait le décor pour autre chose que juste paraître. C'est aussi un premier usage de CGI que je trouvais intéressant. Mes premières expériences étaient avec Sinbad le marin. Fait qu'il y a quelque part, après ça, tout a l'air bon.
Effectivement.
Fait que Beetlejuice, pour moi, avait beaucoup d'attrait à ce niveau-là. Je suis resté longtemps vraiment persuadé qu'il fallait pas que je dise son nom trois fois devant un miroir, sinon quelque chose allait se passer. Les costumes étaient vraiment bons là-dedans. Bref, c'était la première fois que j'ai fait comme « Ouh! » C'était, mais si j'avais été le seul film de Tim Burton que j'aurais vu, ça aurait vraiment été extraordinaire. Malheureusement, j'ai vu les autres, puis j'ai compris qu'il y avait une formule. Fait qu'après, je vais parler de Mars Attaque. Vous rappelez-vous de Mars Attack?
Ben oui, tout à fait. Tout à fait.
Non. Encore une fois, c'est produit et réalisé par Tim Burton, Mars Attack?
Oui.
Oui, oui. Mars Attack, c'était le premier mauvais film que j'ai aimé voir.
Mais on s'entend-tu que ce film-là avait pour but d'être mauvais?
Oui, oui, oui. Mais c'était Mars Attack, but, pour moi, m'a ouvert l'esprit au mauvais film. C'est grâce à Mars Attack que j'ai pu voir Turkish Star Wars puis avoir eu du plaisir. C'est grâce à Mars Attack que j'ai été capable d'écouter le spécial de Noël de Star Wars puis avoir du plaisir.
Même les acteurs n'ont pas eu de plaisir.
Non, il n'y a personne là-dedans. Le costume de Chewbacca a poursuivi la compagnie après ça. Non, je comprends. Mais tu sais, c'est grâce à Mars Attack qu'après ça, j'ai écouté The Room avec Tommy Wiseau et que j'ai eu du plaisir. Tu sais, c'est merci. C'est aussi grâce à ça que j'ai écouté The Rocky Horror Picture Show, qui est un extraordinaire film à regarder dans le temps de l'Halloween. Mais bref, c'est ça. Merci à Mars Attack de m'avoir permis de découvrir l'attrait des mauvais films. Le dernier film également, c'est James et la pêche géante. Où c'est un jeune homme qui se fait évaluer par sa tante et ses deux tantes horribles qui réussissent à s'enfuir vers la ville de New York dans une grosse pêche géante qui flotte dans les airs.
C'est un peu absurde.
Puis finalement, par se faire récupérer par ses deux tantes, puis qui transforme la grosse pêche en espèce d'attraction pour essayer de... Bref.
Ça, c'est Tim Burton qui fait ça.
Produit par Tim Burton. Parce qu'à un moment donné, je suis plus capable de rien trouver de pertinent.
Bon.
Fait que bref. James à la pêche géante, c'était quand même cool. Fait que c'est ça pour mon top 3. Fait qu'on vous avait aussi préparé un French Mary Gif pour aller avec notre top 3. On voulait faire un French Mary Gif des films de Tim Burton, mais bon.
Il manquait un film.
Mais non, il n'y a que vu deux. On a voulu faire un top 3, un French Mary Gif des films de Johnny Depp, de Tim Burton, mais.
Personne n'avait vu les mêmes films.
On a voulu faire un French Mary Gif des films, des personnages que Johnny Depp incarne dans les films en général. Mais honnêtement, on n'a vraiment pas vu les mêmes films. Mm-hmm.
On a choisi un autre, une actrice.
On a choisi.
Fétiche.
Mary Bonham Carter, qui est une autre actrice qui joue souvent dans les projets de Tim Burton. Donc, notre French Mary Gif.
Oh yeah!
J'aime beaucoup trop plaisir avec son jingle.
C'est moi qui l'ai fait.
Ben oui.
Bon.
Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Ah oui, Planète des singes, King's Speech et Alice.
Je vais gifler Alice au Pays des Merveilles.
Yes.
Juste parce que c'est pas... parce que moi, j'ai aimé l'original Alice, pas besoin d'en faire un autre. Mais c'était quand même bien comme film. Mais bon, je le gifle quand même parce qu'il faut que j'en gifle un. Je vais frencher Le Discours du Roi. C'est un film que j'ai trouvé profondément bon. Et... je vais marier, roulement de tambour.
La planète des singes.
Pas la planète des singes.
Retournement de situation.
C'est totalement inattendu.
Parce qu'il faut savoir que cette chère actrice est surtout connue dans mon livre à moi pour avoir interprété Bellatrix Lestrange dans Harry Potter 5, 6 et 7.
Fait que les trois que j'ai pas vus.
Les trois que tu n'as pas vus, raison pour laquelle on n'a pas pu mettre ce film dans le top 3, j'ai décidé de la marier quand même, ben pas elle, je veux dire de marier quand même les Harry Potter parce que sinon je pourrais pas me respecter moi-même.
Non, tu dormirais pas pour un couple de mois.
Voilà.
Ouais. Mais donc, je vais commencer. Je gifle Alice au Pays des Merveilles parce que c'était pas écoutable, c'était surfait, il y avait énormément de scènes qui voulaient rien dire. Johnny Depp était à son pire là-dedans, dans ce comme folie, ben pensageant.
Ben pas lui, là.
C'est vrai que dans Pirates des Caraïbes 5, il est encore pire, mais c'est là que Tim Burton était à son pire dans ce qu'il fait de plus terrible, dans l'espèce de style over the top qui est pas écoutable. Je French malgré... Non, je refuse. Je French Les Misérables parce que c'était un bien meilleur film.
Mais là, Louis, c'est moi qui fais ça d'habitude.
Sinon, je change de film. Moi aussi, je vais changer de film.
Non. C'est moi qui fais ça, là.
Non, c'est moi qui fais ça.
Je French Les Misérables parce que King's Speech était arrogant, over the top. Je marie La Planète des Singes, 91, parce que 2001. C'était pas le meilleur Planète des Singes. Je pense que la nouvelle série est plus extensive, nous explique mieux, mais c'était celle qui, au niveau de l'image, était la plus intéressante, était le plus... Je réécouterais La Planète des Singes de Tim Burton vraiment souvent.
Oh, ouais.
Ouais. Fait que Jim?
Ben moi, de mon côté, je vais frencher King's Speech, excuse-moi. C'est ma dialecte, prononciation parfois. Donc, parce que c'est un film historique intéressant, mais je dois admettre que je suis moins vendu que Mina à ce film.
Moi, j'ai adoré le film.
C'est un film intéressant, mais j'irai pas plus loin. Mais moi, j'ai au moins respecté les trois films qu'on avait dit, là. Hein? Je suis bien seul.
Moi, je suis supposé être super original. Là. C'est Mina qui m'a volé mon idée.
Non. On commence pas, Louis. Donc, je marie La Planète des Singes moi-même. Moi-même, parce que... Moi, je vais vous avouer une chose. Je suis un puriste de la vieille série des Planètes des Singes avec Charlton Heston. Je capote sur ces films-là. Je les ai vus au moins 15 fois chaque.
J'aimerais qu'on arrête juste un instant pour souligner que mon co-animateur, Jim Boulay, est âgé dans la trentaine.
Oui.
Pas malgré ses choix de films habituels, dans la mi-soixantaine, tel qu'on pourrait le croire.
Oui, mais c'est tout. Tu sais que j'ai un amour fou pour les films des années 60-70. Et...
ton, vois-tu? Ton, tu sais, on accuse souvent d'avoir que j'ai étouffé mon enfant intérieur. Comme, faudrait que ton grand-père intérieur cesse de se laisser aller comme ça. T'avais eu de
oui,
te promener en pantoufles.
Par man, c'est
en...
bon, Louis.
Trench coat brun.
C'est tout ce que je peux dire. Donc, en fait, c'est ça. Je suis un puriste de la vieille génération. J'ai été voir La Planète des singes de Tim Burton 2001 en 2001 au cinéma avec ma mère, je m'en souviens encore. J'avais même, en entrant, un petit cadeau qu'il donnait à l'entrée. Je me souviens plus c'était quoi. Je pense que c'était un verre ou une patente. En tout cas, un porte-clés. Un porte-clés de La Planète des singes que j'ai eu un certain temps jusqu'à ce qu'il brise. Et c'est un très beau film, mais malheureusement, ce film-là ne concorde pas dans absolument rien, ni dans la vieille série, ni dans les nouveaux Planète des singes. Ça n'a absolument aucun rapport. Donc, c'est une espèce d'aventure, de power trip de Burton qui se matérialise là-dedans. Mais cela dit, c'est un Planète des singes et voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de le marier. Voyant les deux autres choix, parce que comme j'ai Frenchy King Speech, pardon, bien dur à dire ça.
Calvin, ben dur à dire. Le discours du roi.
Ben c'est ça, le discours du roi. Je dois gifler Alice. Ce film long, plate et franchement, à part les costumes qui sont cool, je n'ai absolument rien vu d'intéressant dans ce film. Désolé pour ceux qui ont apprécié. J'ai pas vu le 2, j'ai pas osé aller voir de l'autre côté du miroir, je sais pas quoi, là, la suite, qui m'a-t-on dit était meilleure que le premier.
Ah oui, c'est vrai?
Mais oui, c'est Joe d'ailleurs qui m'a dit ça.
Ok.
Mais non.
Qu'on salue, Joe, qu'on salue.
Salut, Joe! Mais malheureusement, je sais pas pourquoi je suis resté tout au long d'Alice. C'est un regret que j'ai aujourd'hui. Si je pouvais revenir dans le passé, l'une des seules choses que je changerais serait que je partirais avant le début du film avec mon popcorn main dans la main. Voilà. C'était mon French Marie Gifle.
C'est le moment des sorties cinéma. Je suis sorti.
Il y a quand même des trucs intéressants qui s'en viennent. Intéressant, je pense pas sûr qu'ils vont être bons, mais intéressant que je veux quand même aller voir.
OK. Est-ce que c'est Soleil de minuit?
Non.
Réalisé par Scott Speer?
Non.
C'est Kelly Price, une jeune musicienne de 17 ans, souffre d'une maladie rare qui l'empêche de s'exposer à la lumière du soleil.
Oui, j'ai vu la bande-annonce.
Ça a l'air quand même... T'sais, ouais, ça a l'air... C'est pas si lent, si pire que ça. Quand même. Déterminée à ne pas être vaincue par son handicap, Cathy profite du couvent de la nuit pour faire entendre sa musique dans une station de train locale. Grâce à une rencontre fortuite avec Charlie Reed, le dit Patrick Schwarzenegger, pour qui elle craint que depuis toujours, elle vivra un amour d'été de nuit. Mais le secret de sa maladie viendra briser leur bonheur idyllique. Mm-hmm. On a également... La description est courte, mais la bande-annonce était vraiment cool de Sherlock Gnome, qui est réalisé par John Stevenson. Gnomeo et Juliette font un bel et réputé détective Sherlock Gnome pour enquêter sur la description de certains ornements de jardin. Honnêtement, ça arrête là. Je recommande à tous d'aller voir la bande-annonce. Ça valait quand même la peine.
Oui, ça reste assez drôle comme ça.
Rive du Pacifique, la révolte, version française de Pacific Rim.
Mais...
Le héros du premier est mort parce que l'acteur ne veut plus revenir.
ça fait cheap, ça.
Fait que son fils, qui est maintenant un criminel, doit revenir à la tête de son Jaeger. Puis sa seule manière de le faire, c'est avec sa sœur louche, Mako Mori. OK, ben, si on a dérangé la version originale de Unsane... Pas in, on scene. réalisé par Steven Soderbergh, qui a fait vraiment d'autres bons films dans le passé. Il y a Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Farrow. C'était une jeune femme est enfermée dans une institution psychiatrique par erreur et se retrouve confrontée à l'une de ses plus grandes peurs. Mais est-ce réel ou le fruit de son imagination?
Hey, moi, là, c'est pas la première fois qu'il y a un film qui traite de ça. Ça me fait capoter.
Moi aussi, ça me fait capoter.
Ça a l'air de la version contemporaine de Shutter Island avec Leonardo DiCaprio, il y a une couple d'années.
Ça en est un d'abord.
Ouais, c'est ça. Ça file très ça. Sinon, on a Foxtrot, un film d'origine israélo-suisse. Encore une fois, les combinaisons.
Comme l'impression, je vais me ramasser à aller voir ça. Moi.
Ben, peut-être pas, là. C'est réalisé par Samuel Maoz. Michael et Daphna sont mariés depuis une trentaine d'années. Ils mènent une vie heureuse et bien rangée à Tel Aviv, alors que leur fils, Jonathan, s'apprête à fêter ses 20 ans. Des soldats poussent la porte de la maison pour annoncer une terrible nouvelle. L'Homme de l'île, un documentaire québécois réalisé par Bruno Bouliane. Au cœur du fleuve Saint-Laurent, sur l'île aux oeils et l'île aux grues, un chasseur de légendes découvre la fulgurance de l'or et la beauté de son monde. Incarnation vivante des lieux, c'est ici que Gilles Gagné vit et exerce son métier de guide de chasse, habitant ce pays en lien étroit avec les éléments, l'histoire et la mémoire. Pendant 30 ans, Gilles Gagné a guidé le peintre Jean-Paul Riopel vers les plus belles chasses à l'oie. Il accompagne maintenant l'artiste Marc Séguin sur des sentiers apparentés. Fait que ça a l'air quand même le fun. Là. Ça n'a pas l'air... Le Brio, France-Belgique, cette fois-ci, c'est un drame réalisé par Yvan Attal, mettant en vedette Daniel Auteuil, Camille Jordana, Yacine Huichan.
Dibs.
Dibs.
Ah, ça a l'air bon, ça.
Ah oui.
OK.
De toute façon, on t'a dit Daniel Auteuil. Il peut pas faire autrement.
Ah, OK. Nayla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, Daniel Auteuil, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Nayla au prestigieux concours d'éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous deux à dépasser leurs préjugés. Ça sonne tellement cliché de film français que ça m'en fait presque vomir ma baguette.
Ah non, ça a l'air extraordinaire. La bande-annonce est complètement folle. Ça a l'air très bon.
Là, ça, c'est mon dibs. Ça, c'est le film que si ça sort à la maison du cinéma, c'est sûr que je vais le voir. C'est une bonne question. J'ai vu cette bande-annonce-là. J'en ai parlé dans l'émission. Steve Buscemi, Michael Palin, Adrian McLaughlin, Simon Rosenbell. C'est réalisé par Hernando Iannucci, que je connaissais pas. La mort de Staline.
Ah oui, ben oui, c'est vrai, ben oui.
Ça s'en vient.
Ben, on te le laisse.
Dans les jours qui suivent son attaque cérébrale, les ministres composant la garde rapprochée de Staline se livrent à un combat acharné pour prendre le contrôle. Certains souhaitant un changement positif en Union soviétique, d'autres nourrissant des ambitions plus funestes. Mais tous sont là pour la même urgence. Lutter à tout prix pour rester simplement en vie. Je recommande à tout le monde d'aller voir la bande-annonce de cette histoire-là. C'était tellement drôle. Fait que, ouais, c'est ça.
En tant qu'un grand fan des films russes, comme tu as pu le constater cette semaine, Louis, je me ferai un devoir d'aller voir ce film.
Ben, en parlant de films russes, justement, il a été censuré et refusé de passer en Russie. Parce que, crachant sur la mémoire de... Ouais, c'est ça. C'est un paquet de monde, c'est ça.
Des gens sérieux là-bas, parfois.
À l'occasion. Mm-hmm. Fait que, mesdames et messieurs, ce serait la fin de notre émission de cette semaine de Cinébrunch. Je vous souhaite à tous un extraordinaire popcorn, un bon film et un bon week-end. De la part de moi-même, Louis Laramie, de Jim Boulay,
hey,
et de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonsoir.
Une bonne semaine.
Bonne semaine.